La Midinale, la matinale libre, curieuse et impertinente de Radio Piquet. Bien de retour dans cette midinale de Radio Piquet du 26 septembre 2022 pour la deuxième partie S'informer autrement. Désolé pour les petits problèmes techniques tout à l'heure, on se remet dans le bain tout doucement et c'est reparti. Alors qui prend la main? Je crois qu'on a un sujet sur Pont de Buis.
Ouais, tout à fait. Du coup, moi je voulais parler de l'article de Reporter qui a été fait par Christen et qui est paru le 22 septembre 2022. En fait, il parle de l'objectif de l'usine Nobel. Nobel Sport, pardon, de Pont-de-Buis, d'augmenter de 25% sa production de poudre. Donc il relate un petit peu le... en fait, lui, il s'attache plus dans son article à l'aspect environnemental, mais il note aussi, enfin, il rappelle que Nobel Sport, c'est notamment la fabrication d'armes et de munitions qui ont servi dans les mouvements sociaux, notamment. Qui ont servi sur la ZAD à Notre-Dame-des-Landes et plus généralement aussi qui servent d'outils de, on va dire, de, entre guillemets, de maintien de l'ordre, sécurisation dans les quartiers en métropole et en outre-mer. Donc il en parle brièvement, mais il s'attache surtout à l'impact environnemental du projet et notamment sur l'utilisation de l'eau. Donc il cite un chiffre d'une consommation pouvant atteindre 3500 m3 par jour d'eau, et ça c'est nécessaire au refroidissement du processus de production, en fait. Donc on s'imagine qu'une augmentation de 25%, on peut atteindre 25% de plus de consommation maximale. Et il s'attache aussi au rejet directement de l'usine, en fait, notamment à une molécule, c'est la diphénylamine. Donc la diphénylamine, c'est un composé qui est utilisé pour la stabilisation des explosifs, donc là c'est le cas en tout cas sur l'usine de Nobel Sport. Et moi, ce que j'ai vu aussi, c'est que c'est un fongicide. Enfin, c'est aussi utilisé pour ses propriétés fongicides et notamment pour la conservation des pommes et des poires. Et il faut savoir que cette utilisation-là, elle est interdite en France depuis 2012, en tout cas au niveau agricole. Après, on pourra en reparler, mais je trouve intéressant de le dire aussi, c'est que... Bien qu'il y ait eu une interdiction en 2012, en fait, pendant un an, les producteurs de pommes ont eu le droit de quand même utiliser ce fongicide. Donc ça, c'est un autre sujet, mais c'était important aussi de le dire, de le rappeler. Et ce projet-là d'augmentation, en fait, il a été retoqué par deux rapports. Par un avis de la commission locale de l'eau, qui a noté, entre autres, une incompatibilité avec l'objectif de maintien de l'équilibre de la rade de Brest et la protection des usages littoraux, du fait de l'absence de réduction des flux de DCO. Alors le DCO, c'est la demande chimique en oxygène, et c'est un des outils qui est... c'est une unité de mesure, en fait, pour au niveau des pollutions de l'eau, quoi. Et du fait de l'absence de réduction des flux de DCO et de DPA, donc DPA c'est la diphénylamine dont on a parlé tout à l'heure. Le deuxième point, c'est une incompatibilité avec l'objectif de prise en compte de la nécessité de protéger les poissons migrateurs dans la Dauphine. Incompatibilité avec l'objectif Non, une forte interrogation sur la capacité du porteur de projet à assurer le respect du débit réservé en période d'étiage. Donc l'étiage, c'est la baisse périodique des eaux. Et il en parle également dans l'article. En fait, c'est là on sort de 2022 d'une période de sécheresse historique. Et on sait très bien que ça va se reproduire. Donc c'est à savoir déjà de une, est-ce que Nobel Sport sera en capacité, enfin est-ce que la Dauphine, en tout cas la rivière dans laquelle ils vont prélever de l'eau, sera en capacité d'apporter assez de volume d'eau pour refroidir le processus. Et dans un deuxième temps, est-ce que qui a la priorité en fait sur l'eau, quoi. C'est-à-dire, on peut se représenter, c'est un peu le même problème qu'on a avec les méga bassines. C'est à partir du moment où on capte de l'eau, qu'est-ce qu'il en est des autres utilisateurs ou autres usagers de l'eau, quoi. Et on peut penser au milieu agricole notamment, quoi. Et voilà à peu près ce que j'avais à dire pour faire court.
Ouais, on peut même penser à d'autres utilisateurs, là, puisque tu parles de Christine Falchon, là, qui a fait cet article. Il y a Splane aussi, qui a fait tout un dossier sur les méthaniseurs. Et il y avait notamment un rejet du méthaniseur de Châtelain, donc dans l'Aulne, qui est parent avec la Dauphine, quoi, enfin, où ça avait privé d'eau, bah, du coup, moi-même, et puis bah, une grande partie des habitants de la Presqu'île, parce qu'ils avaient rejeté le contenu du méthaniseur dans l'Aulne, et on n'avait pas pu utiliser cette eau-là pendant, je ne sais plus, 15 jours, quelque chose comme ça, quoi. Donc, la Bretagne, qui est la région de France la plus polluée déjà par l'agro-industrie, a aussi quelques autres contributeurs, quoi.
Ouais, et pour poursuivre là-dessus, en fait, faut aussi rappeler que l'Aulne, elle est toujours polluée au plomb du fait d'anciennes carrières, en fait. Mais ça c'est historique et c'est un truc. Alors pour l'instant, je crois que il y a que les moules qu'on n'a pas le droit de consommer,
c'est
en tout cas.
Des anciennes mines d'argent.
C'est ça. Et du coup, ça date, enfin, c'est plusieurs siècles, en fait, quoi. Et en fait, on n'a toujours pas résolu ce problème-là. Ce serait peut-être un truc à fouiller aussi dans le cadre des nouvelles émissions, peut-être.
Écolopolitique de Radio Piquet. Voilà.
Ouais, et puis tu parlais des méga bassines au sujet de l'accaparement de l'eau. C'est un gros sujet. Il y a une vidéo qu'on vous invite à regarder sur le site des soulèvements de la Terre qui s'appelle Météo Bassine. Voilà, pour donner un petit peu la cartographie des projets des méga bassines en France et aussi de la victoire de militants contre les méga-bassines qui ont réussi quand même à rendre inopérantes certaines méga-bassines. Donc c'est un gros sujet et c'est clair que par rapport à l'usage de l'eau en tant que bien commun et l'accaparement de l'eau par les industries, il y a vraiment beaucoup à dire et à suivre, bah, notamment comme tu le disais, en ces temps de réchauffement climatique. Et voilà, moi je me disais aussi que cet article-là dans Reporter, il avait une grosse actualité jusqu'à hier soir minuit parce que c'était la période d'enquête publique pour permettre aux habitants de s'opposer à ce projet d'accroissement de la production de Nobel Sport. Donc pour rappel, une enquête publique, c'est un processus législatif dans un cadre démocratique qui en fait oblige les municipalités lorsqu'il y a un possible impact environnemental d'un accroissement de production ou d'une installation d'exploitation sur un territoire à interroger et à recueillir les avis des habitantes et habitants d'un territoire. Donc c'est à mettre en place sous un délai de 30 jours pour 30 jours de recueil des avis. Et ça peut être renouvelé une fois. Il y a un commissaire enquêteur ou une commissaire enquêtrice qui est chargée de récolter ces avis et de produire, d'en faire un rapport et de produire un avis favorable ou défavorable en fonction des avis recueillis. Donc c'est un levier politique qu'on peut avoir pour s'opposer à un projet. Après, dans une démocratie un peu malade telle qu'elle est, on voit qu'il y a aussi des avis majoritairement défavorables qui sont émis sur des projets et pourtant une autorisation préfectorale qui suit. Et ça a été le cas de Landunvez et de la méga-porcherie. Et on en a parlé hier dans l'émission du pain et des parpaings, qui était la première, tu le disais, d'une émission mensuelle sur les luttes environnementales, sociales et paysannes. Donc voilà, là, l'enquête publique, elle est close depuis hier minuit. Donc à suivre aussi sur les résultats et puis sur l'interprétation des résultats et les décisions politiques qui vont suivre.
Après, moi, je rajouterais sur cette enquête publique, normalement, une enquête publique, tu as l'obligation aussi d'en informer largement les gens. Moi, je l'ai appris il y a 2 jours, quoi.
Alors, c'est dit par tous les moyens possibles, ouais. Médias, affichage, etc. Mais c'est à la discrétion de la municipalité de mettre en place cette information-là. Donc, évidemment... on peut ou pas en être au courant. L'affichage, il peut être en mairie, dans un coin.
Sur le site de la PREF, dans un tout petit coin. Non, puis tu disais, oui, dans cette démocratie malade, le fait déjà... Bon, on a vu l'exemple d'enquête publique sur Landunvez, où il y a un avis défavorable. La PREF autorise quand même. Bon, c'est rebooté parce qu'il y a eu des attaques en justice. Ils refont une enquête publique, c'est pas grave, jusqu'au bout on y arrive. Et moi j'avais participé, c'était il y a 1 an je crois, à une enquête publique sur la fin du démantèlement de la centrale nucléaire de Brennilis. Et à ma grande surprise, j'avais pourtant écrit 3 fois défavorable dans mon texte de pourquoi j'étais contre la façon dont ils proposaient la fin de ce démantèlement. Et le rapporteur de l'enquête, moi j'ai vu le retour, tu vois, il te publie un document et mon avis était passé en favorable sous condition. Donc moi franchement, ces enquêtes publiques, je pense qu'il y a un moment, je sais pas ce qu'on peut en faire, quoi, à quoi ça sert, quoi. Donc la démocratie est bien malade, oui.
Ouais, carrément. Après, c'est intéressant de voir justement, de lire comme tu as fait attentivement les résultats des rapports pour protester aussi contre l'interprétation de ces avis-là et puis suivre un peu toutes les injustices, l'invisibilisation des avis des populations, des collectifs et des assos. Et par rapport à l'eau, en plus, c'est pas que l'enquête publique... qui va le dire avec des messages individuels, mais il y a aussi un autre article de reporter qui date d'il y a 15 jours à peine sur le fait que dans le Finistère, l'été fut fatal pour la faune des rivières du coin, donc la Dauphine en fait complètement partie. Donc il y a vraiment un prisme très large de preuves qui sont apportées que l'eau est vraiment...
en danger. Et au-delà de la question purement environnementale, c'est vraiment la production de cette usine qui est problématique. C'est un des maillons essentiels de la politique du maintien de l'ordre en France. Je veux dire, il n'y en a pas énormément. Je crois qu'il y en a 2, mais Pont-de-Buis est la plus grosse. C'est eux qui fabriquent les poudres pour la plupart des armes.
Lacrymo, LBD. Ouais.
Grenades de désencerclement. Enfin bref, tout ce qui mutile... tout ce qui gaze, tout ce qui soumet, pour reprendre le titre d'un livre, c'est fabriqué à Pont-de-Buis et c'est à 2 pas de Brest, c'est chez nous. Là, c'est des fois particulièrement compliqué d'avoir accès à quelque chose de matériel. Là, on a vraiment l'usine qui va produire toutes les armes contre les manifestants. Mmh. C'est quand même... un des points essentiels aussi de cette enquête et puis de cette usine.
Moi, au-delà de ça, je voulais rajouter que c'est des armes qui servent chez nous, mais qui servent aussi à l'extérieur. Et j'ai retrouvé une question d'un des députés à l'Assemblée nationale. Ça date de novembre 2017. C'est Bruno Fuchs qui interroge Madame la ministre des Armées sur les perspectives de développement de la filière munitionnaire en France. Le ministre de la Défense décidait en mars 2017 de réimplanter sur le territoire national à Pont-de-Buis une capacité industrielle complète de production de munitions de petit calibre destinées à l'approvisionnement des forces armées, de la police et de la gendarmerie. À cette occasion, il annonçait la constitution d'un consortium réunissant le premier groupe industriel français de défense, Thales, le principal fabricant de poudre au monde, Nobel Sport, et le champion international de l'équipement munitionnaire, Manurin. Je cite toujours la question, c'est il s'agit d'une opportunité qu'il convient de saisir, d'autant plus que le marché munitionnaire connaît une très forte croissance en raison d'un contexte géopolitique instable dans plusieurs régions du monde, y compris en Europe. Voilà.
Puis, pour rajouter encore, il y a un autre risque, c'est que c'est le risque d'accident. Je veux dire, cette usine a déjà pété, je ne sais plus, c'était il y a combien de temps.
C'est justement, Pedro. Ouais.
Il y avait eu quand même un paquet de blessés et peut-être même de morts à l'époque.
C'était en 75.
75, ouais. Quoi. Alors. Et donc là, si tu augmentes encore ce truc, tu multiplies encore le risque d'accident. Et là, le jour où ça a pété, ça fera encore plus mal.
J'ai travaillé en plus à Nobel Sport.
Ah bah. Donc tu sais qu'il y a des risques, quoi.
Quand j'y étais, c'était il y a plus de 10 ans, il y avait eu un mort, en fait, déjà.
Ah oui.
Ouais, un mec qui était mort sur un chariot. Parce qu'ils ont aussi un site, ils n'en parlent pas trop, hein, ils ne font pas de pub là-dessus. Bon. Ils détruisent des stocks de poudre, en fait, aussi. Et c'est brûlé à l'air libre. Et moi, quand j'y étais, je ne vais pas dire quand j'y étais. Il y avait eu la personne qui manutentionnait les stocks de poudre qui avait pris feu sur son chariot élévateur. Donc, et à l'époque, ils avaient un peu masqué tout ça. Il y avait je ne sais plus combien de tonnes de poudre qui avaient cramé avec les rejets dans l'atmosphère et tout qui vont avec. Et justement, c'est pour ça que je voulais rebondir un peu sur ce sujet-là. Parce que, outre la consommation d'eau, quand on parle d'une augmentation de 25% de production, c'est-à-dire potentiellement une augmentation de 25% de stock. Donc ça veut dire aussi élargissement d'une potentielle zone Céveso, parce que chez Nobel Sport, ils sont en Céveso++. Hein. Et justement, dans les enquêtes publiques, parce que comme il en parlait Seb, il y avait eu déjà un accident en 75. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui habitent à Pont-de-Buis qui ont été traumatisés par cet accident. Et je suis d'ailleurs assez surpris qu'il n'y ait pas plus de réaction de ça sur le fait que quand ça avait pété, enfin, il y avait la moitié du village qui avait pété avec. Quoi. Donc, c'est un accident pyro qu'on te présente en formation. Quoi.
Ouais, c'est ça. Bon.
Ouais, juste pour compléter, bon, là on parle de l'incident de 75, soit je pense que tu parles de celui de 2006. Donc, c'est moi j'ai retrouvé le chef de la sécurité piégé par les flammes, donc effectivement mort, brûlé au troisième degré. En 2014, une explosion à Pont-de-Buis, à la poudrerie, donc un article du Télégramme. En tout cas je ne l'ai pas sous les yeux l'article, mais de mémoire c'est trois blessés dont deux graves. Et l'article, en fait, c'est assez atroce parce que je ne sais pas si c'est volontaire ou quoi, mais en fait, il parle que au conditionnel et tu sens bien qu'il y a aussi cette espèce de... je ne sais plus comment on appelle ça, enfin, c'est pas un secret, mais...
Une chape de plomb.
Une chape de plomb, ouais. Et il parle, je crois que l'article dit... Une des victimes aurait eu un membre arraché.
Donc, c'est sûr qu'on ne peut pas le vérifier.
Bah, ce serait quand même bien qu'on soit au courant. Et puis, plus récemment, en 2019, ils ont fait des tests de nouvelles lacrymogènes. Mais le souci, c'est que les vents n'étaient pas favorables et que c'est allé vers le village de Pont-de-Buis. Et qu'en gros, bah, voilà, tout le monde s'en est pris plein la gueule. Quoi.
Et ce n'est pas qu'en 2019, parce que l'article de Reporter, il cite... un habitant récemment installé sur la commune qui dit que parfois il ne peut pas sortir dans son jardin à l'air libre et qu'il est obligé de mettre un masque parce que c'est irrespirable. Quoi.
Et pour rebondir une dernière fois sur Nobel Sport, parce que non, mais on peut les défoncer. C'est, en plus, c'est une boîte qui a un passif social assez important parce qu'ils sont communs. Moi, quand j'y étais, j'étais en tant qu'intérimaire et il doit y avoir à peu près, à l'époque, il y avait un tiers des salariés, on était intérimaire. Donc ça veut dire qu'on des gens pas spécialement formés aux poudres et tout ça, et qui viennent bosser sur des chaînes avec des turnovers assez impressionnants.
J'en ai croisé un, d'ailleurs, pour finir de rebondir, un intérimaire actuel qui bosse chez Nobel Sport, et il me confirme bien qu'il n'est pas très bien formé, et que ce qu'il y voit, même ça leur fait peur. Quoi. Ils savent qu'un jour, il va y avoir un autre gros accident. Quoi.
Et en plus, avec des cadences, moi j'étais en 5-8, hein, donc des cadences de travail, des enfers et tout ça.
Ouais. Bon. Est-ce qu'on arrête de rebondir sur Nobel Sport? Sport dit balle de tennis, dit rebond. Eh ben, on va rebondir. On va rester dans une question environnementale, finalement, je pense. Hein. Voilà, y a Nico qui nous rejoint et il voulait nous parler de bidoche, Nico.
Ouais, et je vais juste faire un petit teaser cette semaine-là et je développerai dans d'autres mini-dolls. On a le temps, hein, la saison commence.
Oui, oui.
On va rester dans une thématique de destruction massive, en fait. Parce que j'ai relu un bouquin qui s'appelle « Bidoche » de Fabrice Nicolino, qui a 10 ans déjà, et qui est sur l'industrie de la viande. « L'industrie de la viande menace le monde », c'est son sous-titre. Il revient sur l'histoire de comment il y a eu une rupture anthropologique une révolution anthropologique après-guerre et comment on a développé ce système agro-alimentaire de manière industrielle, productiviste, intensive, concentrationnaire. J'emploie le terme concentrationnaire parce que c'est ce qui se passe, c'est une barbarie. L'élevage industriel est une barbarie, c'est ce qu'il défend dans son bouquin et il l'argumente, il le prouve. On est face à une barbarie par rapport au traitement qu'on fait des animaux domestiques, mais par rapport aussi à toutes les répercussions que ça a sur l'environnement, sur les écosystèmes, sur la pollution des eaux, sur la santé humaine aussi. Il y a tout un chapitre sur la santé humaine, sur les conséquences que ça a sur le développement de cancers, etc. Donc gros sujet. Je fais un petit teaser parce qu'il revient sur l'histoire, en fait, sur l'histoire politique et économique qui a construit ce système agroalimentaire dans lequel on pâtit tous et qui est en train de détruire la planète, en fait. L'élevage intensif est le premier responsable des émissions de gaz à effet de serre. Hein. Si on le prend globalement, si on prend toute la filière avec les transports, avec la déforestation, avec l'utilisation du pétrole pour les machines, etc., c'est la première cause de gaz à émissions à effet de serre. Donc juste pour vous annoncer le programme pour la suite, je vais vous lire, il revient donc dans l'histoire politique de la France qui installe les systèmes. Ça nous concerne au premier degré en Bretagne, puisqu'on a fait de la Bretagne l'usine à viande de la France. On a transformé la Bretagne en usine, avec toutes les conséquences que j'ai déjà dit.
Cochons et poulets,
voilà. La Bretagne, c'est 6% des terres agricoles de la France. Elle a produit jusqu'à 60% de la production porcine. C'est un peu baissé, on en est à 55%.
Oh.
Voilà, mais juste dire quoi, c'est complètement dingue. C'est complètement fou. C'est un système barbare, complètement fou. Juste un petit truc sur c'est quoi la rupture mentale qu'il y a eu dans le regard qu'on porte sur les paysans. Il cite un article de la Revue politique et parlementaire qui est paru en 1966, écrit par un type qui était dans ce délire-là, Jean-Baptiste Chombard. Voilà ce qu'il dit. L'agriculture à l'âge industriel. Voilà ce qu'il note froidement. L'agriculture ne doit-elle pas, à l'instar de l'industrie, augmenter la dimension de ses entreprises pour obtenir, conformément à la demande du consommateur, une production de masse de produits agricoles régularisés, normalisés, de bonne qualité et à bas coût? L'agriculture, cette poussière d'exploitation paysanne, il faut entendre le mépris hein, sur les paysans et les paysannes. Hein. C'est ça. Hein. L'agriculture, cette poussière d'exploitation paysanne, ne passerait-elle pas du stade artisanal au stade industriel? Le terme de cette évolution est une agriculture de macro-entreprise, caractérisée par leur gros chiffre d'affaires, employant de faibles effectifs de main-d'œuvre spécialisée, nécessitant de gros capitaux, utilisant moins de terres et parfois point. Ouais, complètement hors sol. Hein. C'est du hors sol, complètement aberrant. Moins dépendante du milieu et par conséquent plus mobile que les visqueuses exploitations paysannes. Je ne sais pas si c'est clair, mais en fait, là, ça annonce, bah, par exemple, le projet de la méga porcherie à Landunvez. Une usine à viande qui n'a plus rien à voir avec le métier de paysan, d'agriculteur, en respect avec ses animaux, respect du vivant, respect de l'environnement, etc. On est dans un délire complètement industriel. Voilà. Je développerai par la suite. Bon, il y a un autre passage. J'ai envie de vous le lire aussi, mais... Ouais, je vais vous le lire parce que moi, ça m'a fait penser. Je vais vous dire après à quoi ça m'a fait penser. Donc là, c'est plutôt un texte d'un géographe, Daniel Fauché, qui revient sur ce délire de transformer le travail de la terre en travail d'industrie. Voilà ce qu'il dit dans un bouquin qui date, hein, mais c'est toujours d'actualité, un bouquin de 49. Il y a un état d'esprit, un comportement spécifiquement paysan qui ne relève pas seulement de l'ignorance, d'une sorte d'insuffisance de développement intellectuel et de savoir, qui est au contraire lié en quelque sorte à la vie paysanne, au mode et au but du travail paysan. Il y a donc, excusez-moi, le système agricole étant constitué, une sorte d'ankylose des esprits, le système est clos, l'intelligence paysanne est close. est close. Tout y devient tradition, c'est-à-dire routine. Voilà comment est vu...
C'est un peu dénigrant. Non ?
C'est très dénigrant. Voilà comment est vu par les industriels et les politiques qui les soutenaient le monde paysan à cette époque-là. Qui nous fait comprendre l'espèce de matraquage mental qu'il y a eu pour faire passer la destruction d'un mode de vie et en faire une marchandisation, une industrie marchande. Je suis clair là dans ce que je dis ?
Ouais, mais 49, ouais. C'était le début du remembrement dans mes souvenirs.
Ouais, mais tout est lié après. Et en fait, moi, ce passage, la vision qu'il donne des paysans, me fait penser au discours de Sarkozy en 2007 sur l'Afrique et l'homme africain qui n'est pas sorti de l'histoire. Il y a la même vision, en fait. Là, d'un côté, c'est les paysans qui ne sortent pas de l'histoire, répétition, routine. Voilà, ils veulent pas le progrès, etc. Et il y a cette même vision du côté de Sarkozy en 2007 quand il parle des Africains. L'Africain... n'est pas sorti de l'histoire, il ne connaît pas le progrès, il ne connaît que la répétition de la nature, etc. Bon, tout ça pour dire que, voilà, politiquement, il y a eu vraiment une vision raciste, coloniale des choses pour développer un marché industriel de la viande qui est en train de détruire la planète.
Donc, le remembrement, du coup, c'est...
Remembrement, c'est qu'on a fait la transformation agronome d'après-guerre, où on a commencé à... Ils ont appelé ça le remembrement. On est sorti d'une phase agricole où on était beaucoup de petites parcelles sur des petites fermes. Au regroupement, en fait, on a encouragé tous les paysans à péter les haies, péter les talus, faire des grands espaces agricoles, excusez-moi, facilement mécanisables et facilement industriables. Et c'est le début en fait de l'agro-industrie en France, quoi. Bon, donc ça date, ouais, c'était l'après-guerre. Je n'ai pas les dates exactes, mais en 1949, on a commencé à réfléchir à comment fallait nourrir la France. Et on a dit qu'il faut industrialiser les systèmes, un peu comme sur un système plus ou moins, j'imagine, américain, ou avec des grandes parcelles facilement exploitables par les machines. PTT, avant, il y avait, je repense à une image de la guerre, enfin, c'est pas très bien, mais quand les Américains sont arrivés en Normandie, ils parlaient du bocage normand, avec c'était beaucoup de parcelles, de haies, de petites... les exploitations étaient très petites et très parcellées. Et ça, on a tout pété.
Et il y a le rôle de la PAC aussi, là-dedans ?
Non, la PAC, c'était après, ça.
Non, mais après, si tu veux, le rôle de la PAC, où plus tu as de grandes surfaces, justement, contiguës, plus tu as de subventions.
Donc, et si tu fais de la semence qui est subventionnée aussi.
Donc c'est une course, justement, à aller dans ce sens-là, finalement, de méga-exploitation et de concentration du capital, donc de la propriété, plutôt que des petites propriétés et donc des petits paysans, tout ça. Quoi.
Et puis c'est une façon aussi que le système agronome a fait miroiter aux paysans, hein, parce que c'est les premiers piégés, c'est les paysans, c'est pas les premiers responsables au final. Hein. Ils sont enferrés dans un système qui les encourage à dire plus tu vas produire, plus tu vas gagner, plus ça va être facile, ce qui n'est pas vrai. Je repense à un film il n'y a pas longtemps qui est passé là, avec Guillaume Canet, je crois, c'était ces petits paysans, non ? Tu boycottes ? Bon, bref. Non, mais le film, je l'ai regardé en diagonale, mais il est intéressant, tu vois, dans le sens où il montrait un mec qui allait faire ses études aux États-Unis, qui revient avec le système américain en tête, qui fait des énormes exploitations de poulets, qui finalement l'endette, et il s'en sort pas, quoi. Enfin, c'est mes souvenirs, je vais pas faire un spoil, si vous l'avez pas vu le film, mais dans mes souvenirs, il se suicide, donc...
Donc tu le fais quand même.
Voilà. Mais et le système de la viande dont Nico parle, c'est un système comme ça, ouais, où on encourage les gens à faire de plus en plus gros. Enfin, on parle de la porcherie de Landulvez. Il y a une porcherie que je connais bien parce que j'ai vécu à côté de Laoulas. Là, j'ai l'impression qu'ils sont en travaux aussi. Là, c'est sur le. Ils sont en train de s'agrandir. Sachant que le paysan, je le connais par ma famille, et c'est un mec qui est en faillite successive depuis 10 ans et qui a droit, lui, d'agrandir, de racheter des terres, de machin. Mais par contre, il est dans le système. Il est bien aidé par la FNSEA. Quoi.
Il faut savoir aussi qu'il y a beaucoup de toute la production, beaucoup de la production de maïs qu'on a par chez nous, c'est pour nourrir les bêtes, quoi. Mmh. Et le maïs est très gourmand en eau. Mmh. Donc là, on revient sur le sujet d'avant aussi, enfin l'eau et du coup la sécheresse.
L'accaparation des ressources.
Voilà, ça se moire la queue et voilà.
De toute façon, quand on tire les fils, c'est tout un système qui tient ensemble. Le maïs transgénique aussi qu'on importe d'Argentine et du Brésil. Là-bas, comment on le cultive en déforestant massivement. Du coup, bon, voilà. Système complètement dingue.
Et en plus, qui produit de la merde.
Qui produit de la merde.
C'est même pas pour. Parce qu'en plus, tu prends l'exemple de Doux, il y a 10 ans, ils produisaient des poulets qu'ils envoyaient aux Émirats. des trucs de qualité dégueulasse où ils te sortaient du poulet à 2 euros le poulet. Quoi. Enfin, c'était un truc. C'était des... bah, toi, t'en mangerais pas. Hein.
Et pour finir sur les liens comme ça, la déforestation qui favorise les zoonoses, les pandémies, et voilà, bon, la boucle est bouclée, ouais, on arrive à un système qui détruit tout. Quoi.
Ouais, un système barbare qui détruit le vivant, mais quel que soit le vivant, les animaux, les humains, les forêts, les écosystèmes en général. Le bouquin Bidoche, il date de 2009, mais en fait, je pense que le constat est toujours d'actualité. Oui. Et ce qui est intéressant en le relisant, c'est qu'il y a un passage sur les zoonoses et sur les pandémies et sur les ruptures de barrières entre espèces. Et il annonce clairement ce qui s'est passé il y a 2 ans. Là.
Et moi, je conseille la lecture du livre d'Andreas Malm là-dessus, qui s'appelle « La chauve-souris et le capital ». Et donc, qui a été écrit en urgence après la pandémie de Covid-19, où il fait le lien entre cette surexploitation, déforestation, agriculture intensive et industrielle. Et donc, voilà. Et puis, la création de zoonoses.
Et après, tu peux mettre aussi qu'on a tendance en plus à dire aux gens, maintenant, vous êtes les acteurs en tant que consommateurs, mais personne ne sait en vrai comment sa viande est produite. Donc, qui va dans un abattoir ou qui veut voir les images d'un abattoir actuellement? Personne, puisque déjà, quand L214 fait par exemple des vidéos pour dénoncer ça, personne ne les regarde. Tout le monde dit, le seul truc qu'on dit, c'est « Ah, oh, c'est une honte, ils se sont introduits dans l'élevage, dis donc.
Ouais, » Le parallèle, après, entre l'élevage intensif et le terme de concentration est toujours très hasardeux. Enfin, c'est pas évident à manier, mais ça m'a fait penser à une porcherie qui a été, qui a commencé à être démantelée cet été en Tchéquie. Et alors, ça fait des décennies que cette porcherie qui a été construite donc sous système soviétique fait débat en Tchéquie parce qu'elle a été construite à l'emplacement même d'un camp de concentration nazi. Qui regroupait pour l'essentiel des Roms, des Tziganes, etc. Et c'était la plus grande concentration de Roms du nazisme. Il était en Tchéquie, à Leti, si je me souviens bien. Et donc cette porcherie empoisonnait la vie publique et politique de Tchéquie donc depuis quasiment la chute du mur, depuis 1989. Donc ça allait aussi avec des tergiversations politiques d'ordre raciste, puisque les Roms sont toujours ostracisés en Tchéquie. Et donc le lieu doit finalement donner place à un mémorial des victimes Roms et Tziganes en Tchéquie. Et les travaux de démolition ont enfin commencé, je crois que c'est en juillet.
Bon. Eh ben, détruisons l'Andounlez. Pardon.
Tu veux faire un mémorial ?
J'ai pas appelé à ça.
Mémorial des cochons.
On reviendra de façon sur cette question au long de la saison, je pense.
Ouais.
Bah oui, parce que malheureusement, le combat est énorme. Hein, là, on a fait le bilan. Là, tout est tellement lié que oui, on a de quoi en parler. Quoi. Autre chose à rajouter pour aujourd'hui ? Non ? Eh ben, moi, ce que je vous propose, je crois qu'on n'a plus de sujet pour cette partie de s'informer autrement. On va refaire une petite pause musicale avec La Tendresse de Taouache et Charivari Furieux de Potochkin. Ça, c'est la sélection DJ Fiasco Pedro. Et on se retrouve pour la troisième partie de l'agenda et peut-être Tout est pas rien. A tout de suite.
Oui, mais sans la tendresse, l'amour ne serait rien. Non, 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 l'amour ne serait rien.
Où je vais me fâcher.